Ma préférence, Irène Finkel.
Jean-Luc Palévody.
Ma préférence, le magazine culturel d'esprit.
Occitanie.
Bienvenue sur Esprit Occitanie. Comme toujours dans ma préférence, on va parler théâtre, littérature, cinéma et de mon endroit coup de cœur pour bien manger à Toulouse. Voilà, vous connaissez le programme, c'est parti pour une nouvelle émission Ma préférence. Alors, pour la première rubrique, on va parler théâtre. Je suis ravie pour cette saison d'accueillir à nouveau Chloé Cardino, qui est notre chroniqueuse comédienne.
Bonsoir à tous les deux et bonsoir à tous.
Bonjour, bonjour Chloé.
Bonjour Chloé.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment et dans les semaines qui arrivent au théâtre?
Alors, il y a plein de belles choses et j'ai dû faire des choix. Alors, je me suis arrêtée notamment sur deux pièces à venir, là. La première, ça s'appelle « Nos femmes ». Ce sera au Grenier Théâtre à Toulouse. Donc l'adresse, je l'ai même récupérée, c'est bien 14 Impasse Gramont. Le métro le plus proche, c'est Argoulet. Je donne vraiment tout pour
c'est
que
bien,
les
on
gens
a tous
sachent.
Les détails.
Mais c'est quand même mieux d'y aller en voiture ou en covoiturage, toujours mieux pour l'écologie.
Surtout pour nos amis devant. Qui viennent.
Oui, on peut se garer facilement dessus parce que depuis le métro Argoulet, c'est quand même au moins 20 minutes de marche. Mais ça se fait avec une trottinette, un vélo.
C'est toujours bon de rappeler effectivement...
Comment on y va,
l'adresse, parce qu'on a des amis qui viennent pas forcément...
Et
de
c'est
Toulouse,
ça, exactement.
Et qui viennent de plus loin.
Il y a des gens qui arrivent de Montauban, tout ça.
Complètement.
Alors, donc, c'est une pièce qui s'appelle « Nos femmes ». C'est une pièce d'Éric Assous. Ça va être joué par trois comédiens super que je connais de Toulouse, qui sont donc Marc Fagé. Vous l'avez peut-être reçu ici, je ne sais pas bien. Mais il fait plein de choses sur Toulouse, il est vraiment excellent. Il y a Philippe Canizares, qui est excellent aussi, et Lorenzo Salvaggio. C'est une comédie. Donc la lumière et le décor ont été faits par Erwan Guillou, c'est le régisseur principal de ce théâtre et il est super apparemment. Alors je l'ai pas encore vu parce que ça commence demain, après-demain, le 16, c'est vendredi, le 16 octobre, du 16 octobre au 30.
Donc on a 15 jours pour aller voir cette pièce.
Exactement.
Elle est jouée tous les jours de la semaine?
Elle est jouée du mercredi au samedi.
Oui. Et les horaires?
Alors c'est 20h30.
D'accord.
Et il faut réserver assez vite parce que c'est un théâtre qui n'a pas énormément de place et qui a quand même pas mal de succès. Donc, ils ont déjà quelques jours pleins. Moi, j'y vais le 28, si jamais. Il y en a qui veulent m'accompagner.
Ah, je vous conseille d'y aller le 28,
n'hésitez
alors.
Pas.
Combien de temps elle dure, cette pièce?
C'est une comédie de 1h30 à peu près.
D'accord.
C'est mis en scène par Francis Azéma. Francis Azéma, qui est le directeur du Théâtre du Pavé à Sainte-Agne et qui est aussi un professeur du Conservatoire de Toulouse. Donc, il fait des très belles mises en scène en général, épurées et puis avec du rythme. Enfin, il est excellent. Et donc, c'est l'histoire de trois meilleurs amis, vraiment des meilleurs amis depuis 30 ans, qui sont mariés tous, ils ont tous des compagnes. Alors, il y a Max, on m'a dit les prénoms. Il y a un film qui a été fait sur l'histoire, je vous en parle après. Donc, il y a Max, Paul et Thierry ou Simon. Bon, on le saura quand j'irai le voir, ce sera mieux. Qui se réunissent pour une soirée et il y en a un qui débarque et il est en retard et puis quand il débarque, il leur annonce qu'il a tué sa femme.
Rien que ça.
C'est une comédie un peu noire, hein, bien sûr, mais ça reste une comédie apparemment. On rit, mais avec des sujets assez graves forcément. Et donc, ça va être aussi tout. Ça va parler de tout ce qui est de l'amitié, de ce qu'on est capable de faire par amitié. Qu'est-ce qu'on est censé faire d'ailleurs par amitié?
Est-ce qu'on peut cacher un cadavre par amitié?
Voilà. Et quelles sont les raisons pourquoi il a fait ça? Il va y avoir apparemment des scènes entre les deux amis qui vont se retrouver seuls à discuter de qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et eux-mêmes ont des femmes et vont parler de leur histoire, chacun de leur histoire d'amour. Comment ça se passe? Il y en a un qui s'embête un peu dans sa vie, qui va s'en rendre compte,
réfléchir quand
ouais,
même.
C'est il m'a donné
pièce,
plein de détails, oui. Mais je ne vais pas en donner trop, moi, pour laisser
l'envie,
la place.
Voilà, l'envie d'en savoir plus en y allant, absolument.
Il m'a dit que ça parle d'amitié, bien sûr, de trahison, c'est une réunion hebdomadaire, et voilà. C'était une réunion hebdomadaire de poker, voilà. Les amis se réunissent pour faire du poker, et voilà ce qui se passe.
Le poker mène à tout.
C'est ça. Et donc, c'est Éric Assous qui a écrit d'abord, mais ils ont fait un film avec Richard Berry, Daniel Auteuil et Thierry Lhermitte.
Qui s'appelait comment, ce
film ? Ça s'appelait pareil, Nos femmes.
Moi, je ne l'ai pas vu, ce film.
Et moi non plus, je ne l'avais pas vu. Donc ça mais je vais voir à la pièce avant, je pense. Comme ça, je regarderai le film après.
Vous pourrez comparer et nous en parler après.
Exactement. Mais ça a l'air vraiment, vraiment chouette. C'est Lorenzo Salvaggio que j'ai eu au téléphone qui m'en a bien parlé. Il m'a bien donné envie et c'est un chouette théâtre. Et les comédiens, Marc Fagé a fait plein de choses. Il travaille beaucoup avec L'Esquisse, une compagnie dont je vais parler juste après. Et il travaille aussi avec Le Grenier de Toulouse. C'est une valeur sûre, cet acteur. Philippe Canizares, excellent. Voilà. Je vous conseille vraiment Nos femmes. Donc, je redis, au Grenier Théâtre, du 16 au 30 octobre à 20h30.
Donc, du mercredi au dimanche.
C'est ça. Ça, c'est la première pièce. Et donc, la deuxième pièce dont on m'a parlé... donc, pas encore vu, bien sûr, parce que ça commence, ça commence du jeudi 21 au samedi 23 octobre. C'est de la compagnie L'Esquisse, justement. Donc, c'est une compagnie très connue sur Toulouse, notamment pour les scolaires. Ils font beaucoup de classiques, de Molière et d'autres. Et les scolaires, ils vont beaucoup. Moi, adolescente, j'allais voir L'Esquisse déjà. Donc, ça fait un bail. Hein. Et alors là, c'est la nouvelle création de Jérôme Jalabert, le directeur de la compagnie. Ça s'appelle Stand By. Et il a écrit ça pendant le premier confinement. Alors, il raconte, il m'a envoyé un peu la présentation, comment il a créé ça. Il me disait qu'il rêvait depuis toujours de faire une pièce pour sa troupe. Donc, d'écrire pour ses comédiens. Ils sont nombreux, ils sont 20 apparemment. Et c'était un peu compliqué, ils ont toujours beaucoup de travail, donc il n'avait jamais le temps. Et quand il y a eu le confinement, ça lui est revenu un peu en tête et ça n'arrêtait pas. Et il raconte, après avoir repeint sa maison, refait son extérieur, il s'est demandé quoi faire et ça lui est revenu et il a commencé à écrire. Alors bien sûr, il ne pouvait pas écrire pour 20 comédiens parce qu'au niveau budgétaire, c'est compliqué. Malheureusement, on doit penser à ces choses-là quand on crée des nouvelles choses. Mais du coup, il a pris du coup les plus anciens. À une exception près de ce qu'il raconte, il a pris pour avoir un peu de jeunesse dans la troupe, mais il a pris des super comédiens de sa troupe et il leur a écrit une pièce un peu en hommage au public qui leur a tant manqué. Donc c'est des comédiens qui se retrouvent enfermés dans un théâtre et il y en a un qui vient pas. Il y a donc le sujet qu'il m'a envoyé, donc c'est à 5 minutes du lever de rideau, les comédiens viennent. Et le technicien d'une compagnie qui ressemble énormément à L'Esquisse sont en place, mais le personnage le plus important du spectacle disparaît. Toute l'équipe doit faire face à cette non-représentation et cherche une explication. Mais depuis ce départ et de façon totalement surréaliste, la troupe est bloquée sur scène sans jamais pouvoir quitter le théâtre. Une troupe de théâtre, un départ, des questions, des tensions, des règlements de compte, un temps figé, des répétitions, l'envers du décor, une mise en abîme, tout est dramatique pour les protagonistes et tout est comique pour le public.
Oui, je trouve que c'est un sujet très très intéressant et c'est la frayeur d'un metteur en scène.
Ouais.
Je pense qu'il n'y a pas plus grande frayeur que celle-ci d'avoir son comédien, le principal qui ne se présente pas au moment lever de rideau.
Oui, c'est vrai qu'on s'interroge.
Je comprends les règlements de compte qui peuvent...
Ouais. Ils peuvent s'en suivre.
Absolument.
Non, puis en plus, nous, en tant que spectateurs, on s'interroge souvent sur ce qui se passe justement en coulisses dans ce genre de situation.
Oui, je parlerai d'une dernière chose après. Mais du coup, les comédiens que je peux citer aussi, il y a toujours cet acteur Marc Fagé, Lucille Barbier, qui est super aussi, je l'ai vu jouer à Avignon cet été, elle est super, Mirabel Miro, Nicolas Dandine, Cédric Guéry et Michael Harel sont les comédiens.
Mais alors, dans ces cas-là, il n'y a pas un remplaçant qui connaît son texte aussi bien que le comédien principal et qui est là en cas de défaillance ?
Alors, ça dépend des troupes. En effet, moi, j'ai joué donc au 3T. On a souvent une doublure. Mais après, encore faut-il que la doublure soit disponible et surtout au dernier moment. Comme ça, c'est pas tous les jours. Il y en a qui habitent... Enfin, c'est pas tout le temps possible. Il y en a qui habitent loin. Ça nous est arrivé de remplacer en dernière minute quand on est malade ou vraiment
bien
très
sûr,
malade.
Bien sûr.
Mais bon, la plupart du temps, il ne faut pas que ça arrive.
Non, mais dans les grandes représentations nationales, les grandes troupes, c'est pas rare d'avoir des annulations un soir pour ces raisons.
Bien sûr.
C'est...
Bien sûr. Mais j'ai entendu une anecdote dernièrement à Avignon récemment. On m'a dit que... C'est le chanteur Francis Lalanne qui apparemment est parti à la mer une semaine pendant le festival d'Avignon en plantant tout le monde. Apparemment, on m'a raconté ça hier et j'ai rigolé.
Et alors, cette pièce, elle va être jouée que 3 jours.
Oui, et j'ai pas dit où, à l'Altigone, au théâtre Altigone, à Saint-Aurens.
À Saint-Aurens, à l'Altigone. Ouais. Pourquoi que 3 jours? C'est dommage, parce que ça donne vraiment envie. C'est court, 3 jours.
C'est vrai. Alors, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un peu aussi pour tester le public, pour voir. Voilà, c'est une première. C'est vraiment une création. Et les seules personnes qui l'ont vu, je pense, pour l'instant, c'est ceux qui ont assisté aux répétitions générales. Et donc, je pense que c'est pour voir un peu. Après, ils sont nombreux sur scène, donc il faut voir aussi. C'est peut-être une question de budget, mais je ne doute pas qu'ils vont le rejouer. Parce qu'en général, leurs créations sont super.
Vous nous en reparlerez, Chloé. Pouvez nous redonner le titre?
Ça s'appelle Stand By.
Donc, Stand By.
De Jérôme Jalabert.
À Saint-Aurens.
Altigone.
À Altigone. Du 21 au 24, c'est ça?
C'est juste ça. 21 au 23.
Au 23.
Juste rappeler que Saint-Aurens, c'est une commune de la première ceinture toulousaine. Donc, Saint-Aurens de Gameville. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette commune, on peut s'y rendre très facilement en transport en commun depuis Toulouse. Et une très belle salle, Altigone.
Oui, c'est,
ouais,
très,
c'est super
très,
beau.
C'est,
vraiment. Et puis, il y a de quoi se garer, bien sûr.
Comme elle est vraiment, le public est vraiment bien en pente.
Oui.
Tout le monde voit
avec
de la même
gradins.
Façon.
Ouais, on voit très
ça,
bien.
Elle a été très bien conçue, cette salle.
C'est top.
C'est 20h30 aussi pour l'horaire?
C'est vrai qu'il me l'a... Ah, si. Non, il ne me l'a pas donné, mince. J'ai pas revérifié, c'est vrai. Mais attendez, je l'ai sur le site. Ou ça doit être 20h ou 20h30. En général, c'est ça. Est-ce qu'il l'a mis sur le site internet? Vous pouvez aller sur le site internet de l'Esquisse, donc la compagnie. Et alors, ben, c'est vrai que... Ah si, non, c'est pas marqué là où je... Il me l'a pas... Je suis désolée,
bon, mais
pas envoyé.
Bon, mais alors, ça, de toute façon, nos auditeurs qui seront intéressés par cette pièce peuvent de toute façon soit effectivement aller sur le site de la salle de Saint-Aurens.
La compagnie ou la compagnie
ou la
L'Esquisse,
compagnie,
sans problème.
Je pense qu'ils trouveront facilement.
Oui, ça doit être 20h30. Et la dernière chose, vous parliez de coulisses, j'avais pas forcément prévu de vous en parler, mais il y a, comme d'habitude, à la fin du mois d'octobre, la semaine du Grand I Théâtre, donc ma compagnie d'impro, qui se joue donc au fil à plomb, comme j'en parle souvent. Et on a un spectacle, cette fois-ci, Coulisses, ça s'appelle. Et c'est 4 comédiens improvisateurs qui vont... en fait, la scène va représenter les coulisses. Et les vraies coulisses seront la scène. On va demander au public quelle pièce se jouera dans les coulisses. Donc, en fait, cette pièce, on ne la verra jamais, mais c'est pour donner une idée de ce que les comédiens, dans quel état ils sont et qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer. Et on va faire des comédiens qui rentrent en coulisses, qui se préparent pendant le spectacle, qu'est-ce qui se passe en coulisses pendant le spectacle et après le spectacle, et c'est tout improvisé. Donc, si vous avez envie de savoir ce qui se passe en coulisses, ça peut être une bonne idée de... Et ça, c'est vraiment la dernière semaine du mois d'octobre, voilà.
Bon, rendez-vous donc fin octobre, parce que ça donne envie.
Oui, ça donne envie. Et Chloé, je vous invite à revenir dans 15 jours pour
de
nouveaux spectacles. Et en tout cas, merci. Vous le racontez toujours très bien.
Ah ben,
ça
merci
donne vraiment
à vous.
Envie d'aller,
il y a plein de choses qui arrivent en novembre, alors je prépare ça.
Mais ça, c'est chouette. Enfin, on peut retourner au théâtre.
Et on peut retirer le masque, apparemment.
Et d'accord.
À l'intérieur, maintenant.
Super. Ben, je sais que dans les
toujours
restaurants,
le pass sanitaire,
c'est,
mais...
c'est le cas aussi pour les restaurateurs. Ils n'ont plus l'obligation du masque depuis vendredi dernier, et donc je crois que là on est sur la bonne route, et,
oui.
Et ça fait du bien.
Croisons
de se
les
dire
doigts.
Ça. Alors c'est à Tiphaine, notre technicienne, que je souhaite donner la parole, parce que je crois, Tiphaine, que tu avais vu une pièce.
Oui, c'est ça.
Alors, quelle pièce tu as vue?
Alors moi, je vais revenir sur Francis Azéma, parce que je suis allée voir sa mise en scène de Marius et de Fanny, de Marcel Pagnol, au Théâtre du Pavé. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que j'y suis allée le jour où ils ont interprété les deux pièces. Donc, c'est-à-dire j'ai enchaîné Marius et Fanny, ce qui fait à peu près un après-midi plus une soirée. Je pense que les auditeurs qui ont fait la même chose doivent être d'accord avec moi pour dire que c'est un sacré marathon. Mais du coup, ce qui était marrant, c'est que autant pour Marius, on nous a dit le masque est obligatoire, autant Fanny, c'était plus obligatoire. Et là, on a eu le cri de joie du public et les masques
lancés
en l'air.
Oui, parce que là, bien sûr, évidemment.
Respirer un peu et sur la fin.
C'est ça. Et alors, c'est une mise en scène qui est très ambitieuse. Il faut imaginer un décor de bar avec la porte, l'extérieur, les bars, la vaisselle. Il y a tout ça et les acteurs interprètent leur rôle avec l'accent marseillais. Donc, c'est très touchant. La relation est très touchante. Et d'ailleurs, en parlant des acteurs, j'aurai le plaisir de les recevoir dans une nouvelle émission dédiée au théâtre, très bientôt sur Esprit Occitanie.
Et on a le nom de cette émission,
Et cette émission, ce sera Bord de Seine.
Bon, c'est un joli nom, on va, oui, on va suivre ça, il me tarde d'écouter la première.
C'est un effet d'annonce en
oui,
direct.
Oui, ça, Tiffaine, ben écoute, dès que tu vas lancer ça, on sera là pour t'écouter avec très
avec
très
plaisir.
Grand plaisir. Et je suppose que Chloé Cardino, notre comédienne, t'écoutera également.
Je vais écouter ça, ça c'est
et,
sûr.
Et sera certainement intéressée pour venir en tant qu'invitée parler théâtre avec toi,
plaisir.
Je n'en doute pas une seconde.
Je vais ramener tout Toulouse, tous les comédiens.
Rien que voilà, ça, rien que Toulouse pour commencer.
Voilà, là, surtout.
Je pense que
tous les comédiens
la rampe de lancement.
Ça,
ça
y est,
là, ils se sont lancés. Là, c'est bon.
Alors, je voudrais qu'on passe tout de suite à notre rubrique numéro 2, qui est l'invité mystère. Alors, l'invité mystère, c'est Jacques Lavergne qui a été l'interviewé. Il s'agit de Violaine Béraud. Violaine Béraud qui a écrit son dernier livre qui s'appelle « Comme des bêtes ». Et c'est Jacques Lavergne qui l'a interviewé il y a quelques jours dans son adroit, un endroit absolument magique, une grotte transformée en salle de spectacle à côté du château de Bruniquel. Cette dame, Violaine Béraud, était là pour la signature et la présentation de ce livre. Jacques l'a interviewé et je vous laisse découvrir cette interview.
Violaine Béraud, bonsoir.
Bonsoir.
Alors je voulais vous parler de votre livre. Enfin, c'est plutôt vous qui êtes venu en parler dans un endroit assez extraordinaire compte tenu de ce qu'il y a dans votre livre et qu'on ne va pas dévoiler. On est dans une caverne. Une caverne authentique,
oui.
Qui est un lieu de spectacle, qui est un lieu de culture. Et vous venez nous parler, le public n'est pas encore là, mais il va arriver, de votre dernier livre, je pense,
oui.
Comme des bêtes, chez Buchet-Chastel. Alors, comment vous le définiriez, ce livre ? Parce que c'est très particulier, c'est très attachant, on ne le lâche pas une fois qu'on l'a commencé, mais on est quand même dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire.
Oui, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'écrire un livre normal avec une histoire racontée de façon chronologique de A à Z.
Linéaire.
Ça m'intéresse de construire la façon de raconter une histoire. Voilà, je ne veux pas raconter une histoire, je veux travailler à comment raconter une histoire. Et donc, j'ai monté ce livre de façon un peu particulière. C'est un interrogatoire de gendarmerie. Et donc plusieurs personnes vont défiler devant les gendarmes pour parler suite à un fait divers, une petite fille qui a été retrouvée sous une grotte qu'on appelle la grotte aux fées, voilà le lien avec l'endroit où nous sommes, et une personne qui est inculpée ou qui est en garde à vue, qui est un homme surnommé l'ours, une sorte d'idiot du village on pourrait dire. Et tous les gens vont témoigner à tour de rôle devant les gendarmes.
Ah oui, alors c'est très intéressant parce qu'on a des points de vue effectivement extrêmement variés de toutes sortes de catégories de population jusqu'à la fin que nous ne dévoilerons bien sûr pas. C'est votre premier livre, non?
Non, non, c'est mon dixième roman.
Dixième roman, donc oui. Vous êtes une autrice, je ne sais pas
une
comment
vieille,
on dit.
Une vieille autrice.
Non, chevronnée, j'allais dire.
D'accord, pas, d'accord.
Non, vous avez du métier, on va dire. Vous habitez dans les Pyrénées, c'est ça?
Oui, j'habite en Ariège.
Ah, l'Ariège, c'est un paysage aussi sauvage qu'ici.
Oui, oui.
C'est un choix d'habiter...
Absolument.
Absolument.
Oui, je vis dans la montagne en Ariège depuis 25 ans. Oui.
Ça vous inspire, ça vous...
Ça me permet de vivre dans le grand calme.
Oui, c'est déjà bien.
Ce qui est important pour écrire, pour moi. De vivre de peu, de faire mon petit jardin, voilà, et d'arriver à vivre uniquement de mes livres.
Et vos autres livres ressemblaient à celui-là ou c'est, on était dans des styles tout à fait autres et différents?
Je cherche à chaque fois à trouver une forme différente, une façon d'écrire l'histoire différente. Mais ce qui est sans doute commun à tous mes livres, c'est de travailler énormément la langue pour le rendre le plus réaliste possible pour, et surtout pour prendre le lecteur. C'est pas que ce soit des livres de suspense, mais je veux accrocher le lecteur au départ et qu'il ne lâche plus le livre une fois qu'il l'a dans les mains. C'est des livres courts et que j'essaie de tenir sur l'émotion jusqu'au bout.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ?
Je ne sais pas. J'ai toujours.
Des livres, c'est pas rien.
Oui.
Ça ne s'improvise pas.
Non, mais j'ai toujours écrit depuis l'adolescence comme j'aurais pu jouer au foot ou faire de la danse ou je ne sais pas.
Il a mieux valu que vous écriviez pour
nous.
Pour
moi,
pour vous et peut-être pour nous, lecteurs, oui, pour le plaisir que vous nous donnez. Vos autres livres sont également publiés chez Buchet-Chastel?
Mes derniers, oui. Mes quatre derniers sont chez eux. Je travaille avec eux.
Et les autres thèmes de vos autres livres précédemment?
Très souvent, ça tourne autour du féminin, de l'intimité féminine, de douleur. C'est très écrit à partir du corps et à partir du ressenti. Et par exemple, le précédent, qui s'appelait « Tomber des nus », parler d'une femme qui vit un déni de grossesse, c'est-à-dire qui est enceinte sans se rendre compte qu'elle est enceinte. Et donc c'est vraiment voilà, sur comment on peut vivre une chose pareille dans son corps de femme.
C'est que vous trouvez l'inspiration au plus profond de vous-même, dans l'actualité?
Non, pas forcément pour le déni de grossesse, un peu dans l'actualité, mais pour celui-là, comme des bêtes, je pars d'un fait divers que j'ai inventé moi-même. Mais par contre, donc qui n'est pas un fait divers,
mais que je présente comme un fait divers.
Et après, je pars de thèmes dont je veux parler. Je voulais parler pour ce dernier livre comme des bêtes. Je voulais parler, par exemple, du lien particulier qu'il peut y avoir entre les animaux et des gens jugés avec plein de guillemets anormaux. Moi, j'ai été éleveur pendant de nombreuses années. J'ai travaillé avec des enfants en hôpital psychiatrique. Et j'ai vu se passer des choses incroyables entre les animaux, mes bêtes d'élevage et ses enfants. Donc je voulais parler de ça aussi.
C'était
des chèvres et des chevaux.
Des chèvres et des chevaux. Et vous les éleviez où? Dans les Pyrénées?
Oui, en Ariège.
Vous avez arrêté?
Oui, j'ai arrêté depuis 8 ans, sinon je ne serais pas là, je serais avec mes bêtes.
Oui, parce qu'en principe, on ne peut pas trop les laisser.
Non, non.
Pourquoi vous avez arrêté?
Parce que j'ai attrapé la maladie de Lyme, qui est une sale maladie.
La tique.
Et qui m'a beaucoup affectée, parce que j'étais très atteinte. Et donc j'ai arrêté l'élevage.
Qui est quand même physiquement dur.
Qui était très physiquement dur là où j'étais, oui.
Donc l'écriture.
Et donc l'écriture, j'écrivais avant d'être éleveur et j'ai repris l'écriture après l'arrêt de l'élevage.
À temps plein,
oui.
Donc on va rappeler Violaine Béraud, Comme des bêtes, Buchet-Chastel. Achetez-le, vous serez surpris, vous serez certainement charmé. Puis quand vous l'aurez ouvert, vous irez jusqu'au bout et certainement très rapidement. Merci Violaine Béraud.
Merci à vous.
Et merci à vous, Jacques Lavergne, pour cette interview. Alors, il est déjà l'heure de notre première pause musicale. Alors, c'est vous, Jean-Luc, qui avez choisi cette première pause. Qu'est-ce qu'on va écouter?
Oui, Irène, j'ai choisi « La fille que j'aime » de François Béranger. François Béranger s'est fait connaître au début des années 70 lors du renouveau de la chanson française. Il était imprégné de folk. À cette époque-là, c'était tout à fait d'actualité et la mode, mais correspondait aussi à l'évolution de la société en France. Il a joué à côté notamment de Dick Annegern, Catherine Ribeiro, Mama Béa et de l'Occitan, Jean-Paul Verdier. Cette chanson m'a très ému. Parce que elle me parle et je pense que c'est une très très belle chanson d'amour qu'on va découvrir. François Béranger est mort à 66 ans, trop jeune.
Ah oui,
effectivement. Était un poète méconnu, en tous les cas insuffisamment connu. Mais aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène grâce à la tournée de San Severino, une tournée en solo, et il chante de nombreux textes de ce chanteur-poète que j'ai adoré à cette époque.
Alors,
donc, nous allons écouter « La fille que j'aime ».
Parfois dans la radio, j'entends ma grosse voix. C'est pas souvent, faut dire, enfin ça arrive parfois. Je me dis qu'avec une voix comme ça, on peut pas chanter l'amour. Faudrait plus de trémolo, du feeling, du vibrato. La fille que j'aime, c'est pas la plus belle, c'est pas la plus moche non plus. Seulement mystère et boule de gomme, c'est pour celle-là que je me sens un homme. Quand je la vois qui vient vers moi, ça me fait des frissons. Quand elle s'éloigne de moi, je me retrouve. Son visage, c'est merveilleux. Elle a une bouche et deux yeux, et puis aussi un menton et un nez avec un front. À gauche une petite oreille cachée par ses cheveux, à droite une petite oreille aussi cachée par les mêmes cheveux. Quand elle est en pantalon, on voit son derrière tout rond. Quand elle met une robe, on le devine, c'est excitant. Et puis ses seins qui sont deux, heureusement qu'ils sont pas trois. Sans ça, j'aurais jamais assez de doigts pour jouer avec quand il fait froid. Là où c'est super bon, c'est difficile à décrire. Les images, les comparaisons, c'est vraiment jamais dans le ton. Autrefois dans une autre chanson, j'ai dit qu'elle avait un ventre comme une plaine à blé mûr, mais ça faisait agriculture. Surtout que maintenant dans les champs, c'est vachement mécanisé. On voit dans les plaines à blé des moissonneuses batteuses lieuses. C'est pas une chose à souhaiter qu'elle se trouve sous un engin comme ça. Il vaut mieux pour faire l'amour ce que la nature a prévu pour. Je peux pas tout vous raconter, d'ailleurs ça serait déplacé. Et puis on va dépasser la limite des 3 minutes. Quand une chanson c'est trop long, les radios vous la passent pas. Moi j'ai beau avoir du cœur, il faut bien que je fasse mon beurre. Suis capé ces couplets là, il vous dit pour terminer que chacun prenne sa guitare et fasse sa propre chanson. Quand ce jour-là arrivera, j'aurai plus à venir comme ça vous faire entendre mes discours et mes chansons d'amour.
Eh bien, c'est une ancienne chanson parce que je ne l'avais jamais entendue. Jean-Luc, vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Mais ils auront intérêt à découvrir ce beau poète qui, à mon avis, reviendra sur le devant de la scène.
Je vous propose tout de suite d'écouter, d'entendre. Est-ce qu'on a en ligne Pascal ?
Oui, je suis là, Irène.
Bonjour. Comment ça va, Pascal ?
Ça va, en pleine forme.
Bon, super, toujours contente de vous entendre parce que vous avez toujours la voix rieuse. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé cette semaine comme livre à lire ?
Alors, je vous en avais déjà parlé un petit peu la dernière fois. Je vous avais promis que je vous parlerai du roman de Leonardo Padura, Poussière dans le vent.
Oui.
Donc, c'est de cela que je vais parler aujourd'hui. Ça a été une très très bonne surprise, c'est un très beau roman. Alors je vais vous dire deux mots de Leonardo Padura, qui est un auteur cubain qui est né en 1955 et qui a surtout fait des romans policiers. Il est connu pour les romans policiers qu'il a fait, il en a fait une quinzaine, toujours édités chez Anne-Marie Métellier dans sa collection hispano-américaine. Et il a la nationalité espagnole en plus de la nationalité cubaine, mais il a toujours habité à Cuba, il n'a jamais quitté la Havane.
Et pourquoi cette double nationalité, c'est un choix ?
Alors, je ne sais pas si c'est un choix, ça lui permet de sortir, je pense, de temps en temps de son pays. Mais quand on lui demande pourquoi il est resté à Cuba, parce qu'il est quand même très critique dans ses livres, avec le régime, il répond, je l'ai noté parce que c'est sa réponse, la réponse la plus courte, c'est que j'ai besoin de Cuba pour écrire. Ma littérature est complètement cubaine. J'ai la nationalité espagnole depuis 10 ans et je pourrais donc vivre en Espagne. Quand on me dit que j'ai une double nationalité, je dis non. J'ai 2 citoyennetés, mais ma seule nationalité, c'est Cuba. Et ça résume bien ce que j'ai compris, moi, de son livre, parce que ce livre, c'est Cuba. C'est vraiment l'histoire de Cuba. Surtout sur une période qui a été très difficile pour l'île, qui était la période de l'effondrement du bloc soviétique dans les années 90, parce que bon, ils se sont retrouvés complètement exsangues et la population a eu beaucoup de mal à vivre. C'est cette période-là qui est traitée, mais c'est traité au travers d'un groupe d'amis. Alors ça démarre comme ça, il y a un jeune immigré cubain aux USA, à notre époque, hein, en 2016 ou 2017, qui est tombé amoureux d'une New-Yorkaise qui s'appelle Adela, qui est cubaine par sa mère, Loretta. Et lui, c'est le fils de Clara qui, elle, est restée à Cuba. Loretta, elle a tiré un trait complètement sur sa vie à Cuba, sur son passé. Sa fille n'en sait pas plus que ça. Mais on a l'impression, dès le départ, qu'elle voit d'un très mauvais œil la relation de sa fille avec ce jeune cubain, Marcos. Bon, Adela, elle s'en moque de ça jusqu'au jour où la maman de Marcos poste sur Facebook une photo de ce fameux clan de copains qu'ils avaient qui étaient les siens dans les années 90. Et sur cette photo, Adela, elle est persuadée de reconnaître sa mère. Donc, elle va chercher à savoir un peu plus. Et parallèlement à cette recherche d'Adela sur sa mère, l'auteur nous amène donc 26 ans auparavant, quand Clara et son clan, donc, c'était des jeunes gens qui étaient liés par une amitié vraiment indéfectible, et dans ce pays qui a entamé sa période spéciale, hein, on a appelé ça période spéciale, c'était quand même un sacré euphémisme. Et donc, ce que je vous disais au début, c'est que Poussière dans le vent, c'est le roman de ces années terribles pour Cuba. C'est, les personnages sont forts, ils sont soumis à la dureté de la vie à cette époque dans l'île. Ils sont magnifiques, ils sont attachants, ils sont à la fois tragiques et forts, mais surtout terriblement humains, parce que ce sont les héros du quotidien. On les voit se battre pour survivre, et puis on les voit petit à petit, les uns après les autres, partir. Alors, il va arriver un drame, je ne vous en parle pas plus, parce que Padura a fait du polar, et là, on reconnaît la patte du polar 2. Hein, ça, y a un suspense qui vous tient quand même en haleine jusqu'au bout. C'est un pavé, il y a 630 pages, faut pas... Voilà. Mais ça se lit comme un page-turner, c'est très agréable à lire, il y a du suspense.
Et puis apparemment, ça vous a fait voyager, Pascal.
Ah oui, totalement. Puis c'est le roman de l'amitié, de la fraternité, de l'exil évidemment aussi, hein, mmh. et de la perte. Mmh. Mais c'est vraiment très complet, c'est un très beau roman et je vous le conseille fortement.
Bon, voilà. Ça c'est une bonne chose. Vous en avez un autre ?
J'en ai un que je n'ai pas fini, je suis en train de le lire et peut-être je vous en parlerai un peu plus la dernière fois, mais je peux vous en dire quelques mots. C'est un petit roman français, je dis petit parce qu'il est petit par la taille, hein, d'une auteure que je ne connaissais pas, qui s'appelle Salomé Kiner. Il s'appelle Grande Couronne, je ne sais pas si vous en avez entendu
Absolument
parler.
Absolument pas du tout.
Il est édité chez Christian Bourgeois, et ça traite d'un sujet très scabreux qui est la prostitution adolescente. Alors il est quand
On
même...
est en France donc là.
On est en France, hein. Oui, c'est une... C'est
donc
à
il faut
la
savoir
personne.
Que ça existe en France, d'accord.
Ouais. Ça existe en France. Là, ça se passe à la fin des années 90, hein, puisque elle est payée en francs.
Mmh, oui, donc forcément.
C'est à la fin
oui.
des années 90. Et alors, c'est écrit. Bon, c'est très cru. C'est peut-être pas à mettre en toutes les mains. Moi, à la bibliothèque, je pense que je ferai attention. Mais c'est quand même drôlement bien écrit. Et puis, c'est sans filtre. Hein. Mmh. Et on voit cette gamine qui, pour se payer... des trucs un peu luxueux, parce que et puis même pas, c'est parce qu'elle est d'une famille quand même très modeste en banlieue parisienne, et elle a envie de ce qu'ont les autres, quoi, et elle peut pas se les payer, et elle va tomber entre les pattes d'un réseau de prostitution. Voilà, c'est à la fois sordide...
Ah oui, c'est tout à fait le mot que j'ai en tête, c'est sordide.
Ouais,
hein.
C'est sordide, mais elle est tellement attachante, et puis... Elle raconte ça avec un naturel qui est tout à fait déconcertant. Bon, je ne suis pas au bout, mais oui, c'est un
vous
livre intéressant, je pense.
Je vous en reparlerai,
oui, ouais, ouais. Je verrai comment ça finit. Là, je suis à peu près à la moitié. Voilà, je vous en parlerai plus la dernière fois et peut-être d'autres choses.
D'accord. Merci, Pascal. Merci. On
avec
se retrouve.
Grand plaisir.
On se donne rendez-vous dans 15 jours.
Dans 15 jours, il n'y a pas de souci.
Merci, Pascal.
Là.
Merci, nous aussi.
À bientôt.
Au revoir.
Bonne soirée,
à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. C'est à moi de faire mon deuxième choix. Alors moi, j'ai choisi de vous faire écouter une chanson que j'adore. Alors, il y a plusieurs versions intéressantes à cette chanson qui a été reprise, parce que en fait c'était même pas Sinatra qui l'avait chanté en premier, mais la première version la plus connue c'est quand même celle de Sinatra avec sa fille Nancy, c'est Something Stupid. J'adore cette chanson, alors c'est pour ça que j'ai voulu l'écouter, parce qu'elle fait vraiment partie d'une de mes chansons préférées. Et pourquoi j'ai pas choisi la version de Sinatra, qui est pourtant très agréable aussi à entendre? Parce que j'adore particulièrement la version de Nicole Kidman avec Robbie Williams, parce que le clip est exceptionnel. Il est, je crois qu'il est tellement kitsch. C'est le côté kitsch que j'aime. C'est la musique, les couleurs, tout est kitsch, tout est mielleux dans ce clip, et ça me fait, je sais pas, ça me fait du bien. Voilà, ça doit être mon côté kitsch aussi un peu à moi.
Ouais, c'est positif.
Hein, c'est complètement positif. On est dans une Amérique des années 60 en couleur, l'Amérique rêvée des belles années. L'Amérique qui a peut-être même jamais existé, mais comme on se l'imaginait en tout cas à l'époque. Et puis Robin Williams, il était tellement séduisant avec Nicole Kidman dans ce clip. Si vous ne le connaissez pas, déjà, je vous invite maintenant à écouter cette version, mais je vous invite aussi à filer très très vite sur YouTube pour regarder le clip. On écoute. You have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the it's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Oula, il va pleuvoir bientôt.
J'adore cette chanson. Alors, je voudrais vous parler maintenant de mon restaurant coup de cœur pour cette semaine. C'est le restaurant qui s'appelle le Smoothie Bar. Il est situé au 27-29 boulevard de Strasbourg. Il est tenu par Didier et Bérangère Andrieux, qui sont absolument adorables. Et pourquoi je veux parler de ce restaurant ? parce que vous le savez, boulevard de Strasbourg, tous les restaurants sont les uns à côté des autres. C'est le, bon, les restaurants de boulevard où on a l'habitude d'aller le midi, où on mange très rapidement, on cherche pas spécialement la qualité, on est pressé, on sort des bureaux qu'il y a aux alentours, etc. On n'est pas dans les petits restaurants de quartier, du côté des Carmes ou du côté des...
On est bien à Toulouse, hein, Irène.
Oui,
hein.
Oui, on est. Je parle bien de Toulouse. Et là, je vous parle des boulevards où on a tous ces restaurants les uns derrière les autres. Et là, je suis tombée au milieu de tous ces restaurants sur le smoothie bar. Ben, c'est un petit écrin au milieu de toutes les chaînes. C'est un petit écrin. D'abord, vous êtes reçu. C'est un accueil personnalisé. Ce sont des gens charmants. Vous avez des produits de qualité. Vous avez des gens qui sont des professionnels. J'ai été très contente de tomber sur ce restaurant. J'ai été très bien reçue, j'ai très bien mangé. Je suis revenue pour les interviewer parce que j'ai été étonnée de ce restaurant au milieu de tous les restaurants. Je ne dis pas de mauvaise qualité, attention, c'est pas ce que je dis, mais de tous ces restaurants un petit peu moins...
plus traditionnel, on va
non,
dire.
Non, bah,
un peu plus moins travaillé, moins, un peu
plus impersonnel. Voilà, plus impersonnel. Là, on est
moins
quand même...
intimiste, oui.
Oui, moins, voilà. Quand vous êtes du côté des Carmes ou tous ces petits restaurants où on aime sortir le soir, qui sont plus intimes, etc. Et ben là, on a quelque chose de cosy. Voilà.
Cosy.
Et c'est le mot, c'est cosy.
Ah,
le smoky.
Smoky.
Le smoky bar. Alors bon, j'avoue que le smoky bar, c'est pas le nom rêvé d'un restaurant. Mais ne vous arrêtez pas au nom et écoutez plutôt Didier Andrieux nous parler de son établissement. Irène Finkel pour ma préférence. Je suis en compagnie de Didier Andrieux dans son restaurant qui se situe au 27-29 boulevard de Strasbourg et qui s'appelle le Smoothie Bar. Bonjour Didier.
Bonjour Irène, bonjour à vous, à tout le monde. Écoutez, c'est un honneur de vous recevoir ici au Smoothie Bar.
Alors déjà, Smoothie Bar, comment on peut deviner qu'il s'agit d'un restaurant? Parce que Smoothie Bar, j'arrive même pas à le prononcer correctement, tant ça ne me fait pas penser à un nom de restaurant.
Vous avez raison, c'est anciennement le Carpaccio. On avait choisi le mot smoky, qui est une façon de cuisiner, de cuire la viande à base de... Parce qu'on cuisine notre viande à base de braise, on fume la viande. Et on a voulu faire ce petit rappel, ce petit clin d'œil à cette forme de cuisson.
Donc le smoky bar, ce n'est pas un bar à cigarettes.
Ce n'est pas un bar à cigarettes, ni avant. Vous avez entièrement raison.
Expliquez-nous un petit peu comment est votre carte. Faites-nous découvrir votre restaurant.
Alors déjà, le décor, on a essayé de faire quelque chose de chaud, avec de faire ressortir la brique toulousaine qui donne un côté rassurant, des banquettes en velours, moelleuses, de belles tables, belles chaises. On a une grande terrasse assez ouverte sur le boulevard.
Grande terrasse, vous avez combien, une capacité de combien de personnes sur la terrasse?
Sur la terrasse, plus de 80 couverts.
Ah, effectivement, et à l'intérieur?
À l'intérieur, une soixantaine.
Alors, je souhaite quand même dire, parce que c'est vrai que ça, on ne le voit pas à l'antenne, ça vaut le coup de venir, parce que même si c'est grand, vous avez réussi à faire quelque chose d'intime.
Voilà, on a essayé le côté cosy. Voilà. On a essayé de jouer là-dessus avec un déco. Et bon, on a laissé faire ça à un architecte. Et on est assez content du résultat. C'est un peu... On est content du résultat.
Et au niveau des produits?
Alors, au niveau des produits, on a je suis au doigt et à Véronée, d'origine. Donc, pour la viande, je suis assez sélectif. On a essayé de faire une sélection sur les viandes de l'Aveyron, de l'Aubrac. On travaille avec des produits locaux. Garcia pour la saucisse. On prend le cassoulet de chez Escudier. On a du poisson, bien sûr, parce que dans notre groupe, on a le restaurant chez Jeannot. Donc on arrive à avoir des poissons frais, des produits frais. La carte des vins, elle est plutôt basée sur le sud-ouest. Pareil, on essaie de sélectionner... Enfin, les produits du terroir, les produits du sud-ouest, voilà.
Oui. Comment ça se passe? Par exemple, vous avez des menus le midi, j'imagine.
Oui, on a des formules, entrée, plat, dessert, avec un plat du jour. On a trois plats du jour. Un qui ne change pas, puisque c'est un pavé de bœuf d'Aubrac qu'on cuit à la braise, avec des frites maison. Et après, chaque jour, on essaie d'inclure au moins deux plats du jour différents.
Et c'est une formule à combien?
Alors, le plat du jour est à 9,90.
Donc, c'est tout à fait raisonnable, effectivement.
Voilà. L'entrée plat ou plat dessert, c'est 13,90. Et entrée plus pas plus dessert, c'est 16,90.
Et pour le soir?
Alors pour le soir, nous avons une carte où les premiers prix, par exemple la véritable saucisse de Toulouse de chez Garcia commence à 12,50€. On peut l'acheter aussi au mètre. On peut acheter un mètre de saucisse de Toulouse à partager. On a le magret. On a aussi deux menus. On a deux menus qui se composent de petites salades paysannes et filets de bœuf avec des frites maison. Ou la même chose avec un demi-magret. Voilà. Qui se commence à un prix, commence à partir à 15,90€.
Comment ça se passe le soir? Il y a une ambiance particulière? Vous mettez de la musique?
Oui, bien sûr. On essaie de mettre un petit de musique.
Quel genre de musique?
Quelque chose de ma génération assez douce. J'ai du mal avec le rap et le métal.
Donc on est cosy, et cosy sur l'endroit, et voilà, sur la musique.
Un peu de soul, un peu de jazz. Des fois les années 80 aussi, ça nous rappelle de très bons souvenirs. Et on met un soin particulier quand même avec notre clientèle, parce que, comme on se disait au début, aller au restaurant maintenant, c'est un luxe. Donc il faut vraiment que, les gens soient bien. Quoi. Voilà. Si les gens sortent une fois ou deux par mois dans notre restaurant, il faut qu'ils s'en souviennent. Et donc on fait attention aux petits détails, à l'assiette, à l'accueil.
Voilà, donc l'accueil est quelque chose d'important chez vous.
Bien
ça,
sûr,
il faut le,
bien sûr,
le signaler.
Bien sûr, bien sûr.
C'est quelque chose en plus de l'assiette.
C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on a été fermé pendant des mois. Le client revient, il faut qu'il ait une attention toute particulière. Parce que malgré le pass sanitaire et malgré toutes les contraintes du centre-ville, s'il vient chez nous, il faut qu'on sache bien l'accueillir, et dans l'assiette, et dans le service, et à tout point. Quoi, à tout point.
Donc, boulevard de Strasbourg, c'est vrai qu'en plus, pour venir déjeuner chez vous, c'est très pratique parce qu'on peut se garer complètement.
Il y a le métro Jeanne d'Arc, le métro Jean Jaurès, le parking Victor Hugo, le parking Jeanne d'Arc. Voilà.
Quels sont vos horaires d'ouverture?
Alors nous ouvrons à partir de 11h30, nous servons jusqu'à 15h, le soir on recommence de 19h jusqu'à 22h30, et en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, nous servons jusqu'à 23h.
Vous êtes ouvert 7 jours sur 7?
Et nous sommes ouverts 7 jours sur 7.
Avec, vous êtes combien ici à travailler?
Il n'y a que moi qui travaille, les autres. Non, je ne peux pas. Non, c'est pas gentil, c'est pas gentil. J'ai une belle équipe, je suis accompagné de mon épouse, Bérangère, j'ai deux super chefs de rang, Nicolas, Mathieu, j'ai de super cuisiniers, je suis très content, et une barmaid, non, je suis vraiment content de mon équipe.
Est-ce qu'il faut réserver pour venir déjeuner chez vous le midi?
Pas tout le temps, on essaye...
Assez fluide en étant sur les boulevards.
On essaye de trouver toujours de la place pour tout le monde, et comme on a une amplitude horaire assez importante... Les gens mangent toujours chez nous. Oh, j'aime pas refuser. Désolé, voilà.
Alors moi qui suis une très grande gourmande, on le sait, qu'est-ce qu'on peut manger comme dessert chez vous? Est-ce que ce sont des desserts qui sont faits maison?
Alors nous avons des desserts maison, dont j'en suis très fier. C'est des flans façon grand-mère, le riz au lait, le banoffee. Et après nous travaillons aussi avec Yannick Delpech, la pâtisserie Sandian.
Oui, donc voilà. D'excellents desserts.
Voilà, normalement. Très bon.
Oui.
Moelleux comme le patron. Je plaisante.
Merci beaucoup Didier.
Avec plaisir Irène.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Voilà, il faut aller manger chez Bérangère et Didier Andrieux. Donc je rappelle l'adresse, c'est le 27-29 boulevard de Strasbourg. Et donc c'est
à Toulouse.
À Toulouse, oui, et c'est le Smoky Bar. Et alors, pour... Pour vous faire plaisir, Jean-Luc, je précise qu'on peut se garer à Jean Jaurès. Il y a le métro, il y a le bus et il y a le parking des voitures qui est juste à côté. Et encore plus près d'ailleurs, c'est de descendre au métro Jeanne d'Arc. Et là, vous êtes vraiment sur le Smoky Bar au 27-29 boulevard de Strasbourg. Eh bien, c'est l'heure de notre troisième pause musicale. Tiphaine, qu'est-ce que tu as choisi de nous faire écouter ? J'aime beaucoup quand Tiphaine nous fait des choix parce qu'elle est très jeune.
Oui, ça fait...
Par rapport à Jean-Luc et moi, on doit le préciser, même si Chloé...
Par rapport à moi aussi, peut-être.
Mais vous êtes quand même aussi jeune, Chloé, par rapport aux deux vieux qui animent cette émission.
Non, je crois qu'il y a un peu toutes les générations.
Voilà,
là,
toutes
peut-être.
Les générations sont autour de la table, on va dire ça. Mais alors, Tiphaine, qui est très très jeune, qu'est-ce que tu nous as choisi ?
Alors, du haut de ma jeunesse, de mes 22 ans, j'ai choisi Cécile Corbel, qui est une harpiste, auteure, compositrice et interprète.
Quelle bonne idée.
Ouais, elle joue de la harpe celtique, donc ce qui fait bouillir mon sang de bretonne. Et elle a fait notamment des reprises de morceaux traditionnels bretons. Elle a composé la musique pour certains films du studio Ghibli, donc notamment pour ceux qui l'ont vu, Arrietty. Et bon, là, elle a des influences folk, des musiques du monde aussi. Et aujourd'hui, elle chante en plusieurs langues, dont notamment en hébreu, en gaélique et en breton. Et le morceau que j'ai choisi, c'est Working Song, dont j'adore les paroles. Elle a un motif qu'elle répète. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une jeune fille qui est dans une maison. Elle ne laisse entrer rien du tout, sauf l'amour.
Oh, trop beau.
Let me in or let me out. Dis le vent à ma porte, vois le froid que je t'apporte. Ouvre la porte pour moi. Il a soufflé pendant des heures, hurlé tant qu'il pouvait. Renverser, briser mon cœur, je ne l'ai pas laissé rentrer. Oh, let me in or let me out. Dis la misère à ma porte, vois le feu que je t'apporte. Ouvre la porte pour moi. J'avais déjà si peu de choses, pas d'argent sous mon toit. J'ai gardé la porte close, elle n'est pas rentrée chez moi. Oh, let me in or let me out. Frappez la mort à ma porte. Vois l'heure que je t'apporte. Ouvre la porte pour moi. J'ai crié, crié encore, pleuré mon triste sort. Toutes les larmes de mon corps, mais je l'ai laissé dehors.
C'est toujours des découvertes, c'est ça qui est très bien. Alors on arrive déjà à notre rubrique cinéma. Alors, j'ai vu deux films. Alors moi qui suis toujours soit un ABC, soit l'American Cosmo. Là, c'est deux films du Gaumont que j'ai vus. Des films, ce qu'on appelle les films à gros budget. Hein. On est sur, par exemple, pour Eiffel, dont la sortie nationale est aujourd'hui, mercredi 13 octobre. Eiffel a eu un budget de 20 millions d'euros, donc je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est un film de Martin Bourboulon avec Romain Duris et Emma Maclay. Alors, comment on dit ? Emma Maclay, je crois. Effectivement, c'est un film avec un budget impressionnant. C'est un film commercial qui se vendra très très bien aux étrangers. Ça, j'en suis certaine. C'est une reconstitution donc de la Tour Eiffel avec beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de recherches historiques. C'est vraiment vraiment un film qui a été où il y a eu beaucoup de recherches sur la construction de la Tour Eiffel. On voit les problèmes qui ont été rencontrés. Bien sûr, on évoque les mœurs du Paris du 19e siècle. Les costumes sont magnifiques. On a un Romain Duris qui est parfait, qui aura, j'en suis certaine, un prix d'interprétation avec ce rôle. Donc, la Emma Maclay, qui est lumineuse, qui est une femme absolument splendide. Malheureusement, je trouve que ce film, il y a une histoire d'amour qui prend beaucoup trop de place. Qui est pour moi complètement mièvre, avec que des bons sentiments, des scènes à rallonge dont on se passerait bien. Et au final, eh bien, je me suis profondément ennuyée sur ce film et je trouve que c'est dommage. Le résumé, je dirais qu'on a voulu faire un Titanic à la française avec une reconstitution, non pas de notre bateau, parce que on a encore la Tour Eiffel debout, heureusement. Mais voilà, au niveau historique, ça correspond à peu près à ça. Et au niveau de l'histoire d'amour, on a un truc où je trouve que dans Titanic, c'était moins mièvre. Alors, c'est pour vous dire, parce que c'était quand même super mièvre.
Oh, donc, j'ai voilà. Adoré Titanic.
Mais voilà, mais Titanic correspondait à une autre époque. Alors, je suis sûre, c'est peut-être moi qui suis une vieille, maintenant, j'en sais rien. mais je suis sûre que Eiffel plaira, en tout cas, certainement à tous les étrangers et certainement à beaucoup beaucoup de Français qui verront d'un autre œil que le mien cette histoire d'amour qui prend beaucoup 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 de place. Moi, je suis allée voir Eiffel en espérant voir un film sur la Tour Eiffel. Alors oui, j'ai vu un film sur la Tour Eiffel et on m'a expliqué pourquoi la Tour Eiffel avait la forme d'un A. Je ne vous en dis pas plus. Et voilà. Après, j'ai simplement à vous dire que j'ai vu hier soir le dernier 007. Pourquoi j'ai vu James Bond ? Alors pas du tout comme les autres films en projection presse, non. Pas du tout. J'ai vu James Bond parce que c'est ainsi. Quand un James Bond sort, depuis que je suis toute petite, ça fait partie de ma culture, ça fait partie de mes rituels. Je vais au cinéma voir tous les James Bond. Le James Bond d'hier était très long, mais on ne voit pas le temps passer parce que c'est effectivement encore un film à très gros budget. C'est super bien fait. C'est... Daniel Craig, voilà, je peux donner mon 06 si jamais tu m'écoutes.
on sent l'envie dans le prénom.
Mais c'est un très beau James Bond. Bon, après, un petit peu ouin-ouin à la fin, mais bon, allez. Je ne vous en dis pas plus, je l'ai aimé, je m'arrêterai là. Allez voir James Bond, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est chouette, c'est un film d'action, c'est... ça va vite, c'est chouette. C'est
et il y a Daniel Craig.
Et puis il y a Daniel Craig. si tu m'écoutes en MP, je peux te donner mon 06.
On est d'accord qu'avec Daniel Craig, tout devient meilleur.
Voilà, voilà. Est-ce que je vous pose la question filles,
hein. Pardon, j'ai ri dans le micro.
Je vous pose la question, alors que ce soit Chloé qui a eu la gentillesse de rester avec nous, ou Tiffaine, est-ce que vous avez vu un film récemment qui est encore à l'écran dont vous souhaiterez parler ?
Alors, moi, j'ai vu Dune, mais je ne saurais pas bien en parler parce que je n'ai pas compris grand-chose.
Et alors,
j'étais avec des amis, ils ont beaucoup aimé, donc je vais parler surtout d'eux. Mais moi, c'est vrai que j'étais un peu paumée dans ce film. Dès le début, j'avais l'impression que les phrases n'avaient pas de sens. C'était, enfin, après, la science-fiction, déjà, de base, quand ça se passe dans les étoiles, j'ai toujours un peu de mal. Après, c'est voilà, incroyable, l'image est très belle, les effets spéciaux sont incroyables, mais c'est vrai que j'avais l'impression que les personnages n'avaient pas d'émotion. Et apparemment, on m'a dit, mais c'est une autre culture, c'est les codes d'une autre culture, ils font que se battre pour l'honneur de je sais pas quoi. Et j'ai pas passé un super moment, mais voilà, ça plaît les fans de science-fiction, à mon avis, vont adorer.
Bon, donc c'est un film que je n'irai pas voir. Je ne sais pas, Tiffaine, si tu avais un film. Avant de te laisser le micro, excuse-moi, je vais radoter. Je vous le répète tous les trois jours sur Facebook. Je vous le dis à chaque émission. Allez au cinéma, l'American Cosmo, pour voir Le genou d'Aed de Nadav Lapid. Ce film est pour moi un des meilleurs films qui a été fait ces dernières années. Voilà, je le redis à chaque fois. C'est un film sur la colère. C'est un film qui est extraordinaire. Qui est un film qui est en train de rafler des prix dans le monde entier, il faut savoir. Allez voir ce film de Nadav Lapid qui s'appelle Le genou d'Aed. Voilà. Tiffaine, je te laisse le micro.
Non, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller au cinéma depuis le dernier confinement.
Aller au cinéma. C'est très bien aller au théâtre, il faut aussi aller au cinéma,
mais
ça c'est important.
Effectivement, j'ai une amie qui est fan de science-fiction et pour le coup, elle est allée voir Dune et elle a adoré.
Elle a adoré, ouais. Moi j'ai vu Le discours par contre que j'ai aimé, mais voilà, on voit la différence, c'est pas du tout le même style. On voit mon style versus le style de... Voilà, Le discours, vraiment, j'étais...
Et au passage je tiens à dire que l'American Cosmographe, c'est un super cinéma. J'y suis déjà allée, ils diffusent plein de films indépendants. Donc,
Mais ça, c'est mon cinéma.
Très, très bon cinéma.
Alors, par contre, je vais maintenant donner la parole à Jean-Luc qui va nous dire ce qu'il a vu au cinéma. Mais comme nous étions tous les deux quand nous avons été voir Eiffel, Jean-Luc, je voudrais que vous me disiez aussi ce que vous avez pensé du film et si vous partagez un petit peu ce que j'en ai dit.
J'allais dire complètement, mais bon, on est là pour porter aussi un peu la contradiction. Alors, peut-être pas tout à fait complètement, ou en tous les cas différemment. Moi qui suis parisien, passionné de l'histoire de la Tour Eiffel, finalement, je pense qu'on n'a pas parlé autant que ça de la Tour Eiffel, en tous les cas dans l'idée qu'on pourrait avoir d'un film qui veut parler de la Tour Eiffel. On parle d'Eiffel. Eiffel, si on en croit l'interprétation et tout au moins la réalisation qui en est faite et l'idée qu'on peut avoir de cet ingénieur de génie, eh bien, il a beaucoup embrassé les femmes et ses maîtresses parce que j'ai rarement vu dans un film autant de temps passé à montrer ses embrassades. Cela étant, je pense que le film n'a pas su trouver, le message qu'il voulait réellement faire passer. Est-ce que c'était la passion d'Eiffel pour cette femme, ou est-ce que c'était effectivement la passion de son métier d'ingénieur pour convaincre l'ensemble de l'intelligentsia parisienne de construire ce monument? Je ne sais pas, je reste sur ma faim. Et effectivement, là-dessus, je partage votre point de vue, Irène. Je pense que ce film plaira à l'étranger. Je ne suis pas sûr qu'il arrive à convaincre le public français en général et provincial en particulier.
Vous avez vu autre chose ?
Moi, je voulais vous parler d'un film sorti en 2021, donc c'est quand même très récent, là aussi. Et je voulais parler d'un film d'une femme, d'une réalisatrice. Il s'agit de son premier long-métrage. Il est sélectionné dans la catégorie des séances spéciales de la semaine critique du Festival de Cannes. Ce film s'appelle « Une jeune fille qui va bien ». Et c'est le premier film d'une actrice que j'adore qui s'appelle Sandrine Kiberlin. Je vous invite à aller voir ce premier grand film de Sandrine Kiberlin.
J'adore
qui
Sandrine Kiberlin.
Parle de liberté, du sens de la vie, de l'injustice lorsqu'on est une jeune femme pendant l'occupation lors de la dernière grande guerre. Franchement, on sort ému, on comprend tout et on imagine tout. Et pour le coup, on se dit que la liberté nous est chère. Et il faut que ça continue dans ce beau pays.
Elle joue dedans aussi, Sandrine Kiberlin? Non.
Alors, l'heure est venue de nous quitter, mais avant cela, je vais faire une annonce. On aura à Muret la 9e édition du Festival du film pour les jeunes réalisateurs. C'est du 7 au 14 novembre. Mmh. Mais la semaine d'avant, je leur consacre une émission. Donc, on aura la présidente du festival qui viendra nous expliquer en long, en large et en travers, comme on dit, tout le festival. Parce que cette année, je crois qu'on aura beaucoup de surprises sur le Festival de Muret où on parlera beaucoup des femmes, on parlera beaucoup de la mixité, on parlera des ethnies, on parlera de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets d'actualité et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de films surprises et beaucoup d'invités. Donc elle viendra nous expliquer tout ça dans une émission spéciale Cinéma Festival de Muret qu'on fera la première semaine, le rendez-vous est pris, la première semaine, le 3 si je me souviens bien, le 3 novembre. Voilà, donc c'était ma préférence, une émission d'Irène Finkel et de Jean-Luc Palévody que je remercie de m'accompagner sur cette émission.
C'était un plaisir Irène d'être à vos côtés.
Merci également aux chroniqueuses Chloé qui reste avec nous.
Merci Irène.
Merci.
On a partagé
Pascal.
Chloé de un
oui,
beau moment.
Oui, absolument. Et Pascal que nous avions en ligne tout à l'heure pour la chronique
Merci
littérature.
Merci à toutes et à tous.
Et également à la réalisation et qui est intervenu. Merci, merci Tiffaine
avec
d'être
plaisir.
Avec nous également.
Bravo
Vous pouvez
Tiffaine.
Bien sûr retrouver le podcast de cette émission ainsi que de toutes les autres émissions sur le site d'Esprit Occitanie, www.espritoccitanie.fr. Et nous vous retrouverons très prochainement pour une nouvelle émission de notre agenda culture de ma préférence, la culture en Occitanie. À bientôt. Au revoir.
Au revoir Irène.